Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous conduire vers l'un des grands sujets de l'actualité européenne et nationale, la fiscalité. Sujet ô combien sensible pour tout un chacun. La fiscalité est une longue histoire souvent douloureuse, allant jusqu'à des révoltes antifiscales du peuple souverain. Et c'est un sujet qui fait l'actualité et qui fait débat et des projets de réforme répétitifs. Mais c'est aussi ce sujet, il faut s'en rendre à l'évidence, une souveraineté étatique et une nécessité sociale. Et comme le dit Christian Saint-Étienne, qui est notre invité aujourd'hui, car il faut des ressources pour financer l'état de droit et l'état régalien. Christian Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître chez votre éditeur préféré, François Bourin, un nouvel ouvrage extrêmement intéressant, « L'État et votre argent, les vrais enjeux de la fiscalité ». Alors nous allons profiter de cette opportunité pour parler de ce sujet très sensible qui est celui de la fiscalité. Alors je vais peut-être quand même, pour nos auditeurs qui n'auraient pas en tête votre remarquable parcours, rappeler ce parcours. Vous êtes un économiste universitaire et un analyste politique français. Vous avez travaillé au FMI. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire des arts et métiers. Et vous êtes par ailleurs conseiller de Paris, fondateur du club de réflexion Génération citoyenne et un auteur reconnu de grand talent qui vous a valu d'être le lauréat du prix Turgot, je crois, en 1991, du meilleur livre d'économie financière, entre autres, et d'être nominé récemment pour votre autre ouvrage, car vous produisez beaucoup ces temps-ci, et on s'en félicite, La fin de l'euro. Alors, sur ce sujet, beaucoup d'avis se font entendre, souvent par le petit côté de la lorgnette, souvent par l'aspect technique, plus que l'aspect politique. Or, pour vous, vous dites ceci en page 7 de votre ouvrage. Avant tout, la fiscalité, c'est un problème non pas de technicien, mais c'est un problème politique. C'est ça, je vous lis. Les principes de fiscalité et la technique fiscale ne sont pas plus assimilables que ne le sont les principes du droit et les techniques juridiques. Si les techniques doivent être mises en œuvre par des professionnels, les principes de la fiscalité et du droit sont le fondement de la démocratie politique. Donc voilà le ton général de votre ouvrage. C'est une responsabilité majeure, un enjeu majeur, d'abord des politiques.
Absolument. Absolument. Il faut se souvenir que les parlements ont été créés pour voter l'impôt. Il y a eu la grande charte britannique en 1215 qui a été la réponse à la révolte des barons anglais qui ne voulaient pas financer les guerres de Jean sans Terre. Et donc il y a eu depuis une action qui a été menée et qui a conduit en France, c'était les États généraux. Et on se souvient aussi que 80% des révolutions politiques depuis 3000 ans sont créées d'abord par une crise de finances publiques, à commencer par celle de 1789. C'est le roi qui a appelé les États généraux, qui se sont transformés en assemblée constituante, parce que à la fin de l'Ancien Régime, il y avait une crise de finances publiques majeure, dont je voudrais dire à nos auditeurs que celle que nous connaissons aujourd'hui en France est d'une ampleur équivalente. Parce que quand on ramène le déficit à 6 points de PIB, on oublie de dire que si on le ramène au niveau des dépenses publiques de l'État, ça représente un tiers des dépenses publiques de l'État. C'est tout à fait comparable à la crise et même peut-être plus grave que la crise de la fin de l'Ancien Régime. Alors, si on regarde la question de la fiscalité, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut l'aborder sous l'angle stratégique. En France, on l'aborde plutôt sous l'angle politique, avec, à la différence des autres pays, une tentation de s'en servir comme un instrument de punition. Dans un pays normal, la fiscalité a pour objectif de financer les dépenses publiques saines, utiles, et de faire en sorte que les techniques fiscales utilisées soient les moins nocives en termes de création de richesses. En France, on essaye de faire un petit peu ça, mais on essaye surtout de punir les riches ou de punir telle ou telle catégorie sociale. Il y a toujours quelqu'un à punir en France de manière générale. Et donc, la fiscalité est notamment un instrument de punition. Et donc, je m'élève totalement contre ça. Je dis qu'il faut reconstruire une fiscalité sensée qui ait pour objectif le financement d'une dépense saine. Et de ce point de vue-là, je rappelle que la France a le record de la dépense publique et de très loin au sein de la zone euro, avec 56 points de PIB de dépenses publiques, ce qui est plus de 7 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Ce qui veut dire que, ben, en face, il faut avoir des cotisations sociales et des taxes et des impôts à la hauteur pour financer cette énorme dépense publique.
Le point mort est très très élevé.
Exactement. Et donc, c'est tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses, parce que dès qu'il y a un ralentissement économique, on est étouffé. Et donc, dans ces conditions-là, j'observe, un, qu'il faut reprendre en main la dépense publique. Deux, qu'il faut tenir compte de ce que nous faisons face en France à une crise qui est à la fois une crise de finances publiques avec un niveau de déficit très élevé, une crise de compétitivité fiscale au sein de l'Union européenne, puisque les autres pays dans l'Union nous font une concurrence fiscale extrêmement dure et directe. Je rappelle que, par exemple, en Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés est à 12,5%, alors que nous, en France, avec un taux d'impôt sur les sociétés à 34%, on a le record d'Europe, de l'Union européenne à 27% du taux d'impôt sur les sociétés. C'est le plus élevé depuis 2008. Maintenant, ça fait 3 ans que nous avons le record du taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé. Donc, si vous prenez les 4 impôts clés de la compétitivité fiscale, l'impôt sur les sociétés, donc France, record absolu d'Europe. Vous prenez la fiscalité de l'épargne. Après plusieurs relèvements intervenus sous le gouvernement actuel, la fiscalité des plus-values et de l'épargne est à 31,3. C'est un des niveaux les plus élevés d'Europe et de loin. Ensuite, vous avez le taux marginal d'impôt sur le revenu. Quand vous y intégrez la CSG, nous avons un taux marginal d'impôt sur le revenu autour de 50%, qui est un des plus élevés d'Europe. Et enfin, nous sommes le seul pays à avoir un impôt sur la fortune. Il est en train d'être modifié. Il sera moins stupide qu'avant, mais il reste néanmoins un impôt sur la fortune. Et donc, nous avons une compétition fiscale très dure devant nous. Donc, à la fois crise de finances publiques, crise de compétitivité fiscale, et nous avons besoin de reconstruire notre appareil de production, puisque nous avons un chômage endémique très élevé. Donc, j'essaye de construire une réforme fiscale qui réponde à ces 3 objectifs à la fois, c'est-à-dire nous sortir de la crise de finances publiques, nous rendre notre fiscalité à nouveau compétitive au niveau européen, et enfin, construire cette fiscalité pour qu'elle favorise l'essor des entreprises. Et ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que justement, ce que le livre montre, c'est que c'est parfaitement possible.
Oui. Alors, ce que vous rappelez, donc, les grands principes d'une fiscalité performante, je vous cite, qui sont clairs et incontournables. La fiscalité sert à financer les dépenses publiques sous réserve que ces dernières soient utiles et justes. La fiscalité doit encourager l'activité économique, l'innovation et la prise de risque entrepreneuriale qui sont le fondement du progrès social. Et la fiscalité doit prendre en compte les capacités contributives des citoyens et la nature des bénéficiaires des dépenses publiques afin d'être équitable. Alors, vous dites dans votre introduction ce que vous pensez de la situation de la France. En France, aujourd'hui, les impôts sont beaucoup plus lourds que dans les autres pays européens. Mais cette dépense alimente une hausse continue des prestations sociales plutôt qu'elle ne prépare l'avenir de la nation. Il est urgent de reprendre en main les finances publiques de la France, c'est ce que vous venez de dire. Alors, pour la situation particulière de la France, vous ajoutez en page 15, ce qui me paraît être une continuité de votre, comment dirais-je, de votre idée directrice. Quelle France voulons-nous ? On peut rêver la France, je l'ai souvent fait, dites-vous, mais on ne gouverne pas un pays hors contexte. Un système fiscal est tout sauf un sujet technique. La fiscalité est la traduction d'une vision du monde, mais pour être efficace, elle doit s'inscrire dans le monde. Alors, les éléments de contexte, c'est aussi la concurrence et la France dans l'Europe.
Absolument. Or, de ce point de vue-là, ce que l'on observe, c'est que on peut construire une réforme fiscale intelligente avec un principe général qui est celui d'abaisser les taux en élargissant les bases. Au fond, si vous vous souvenez là de ce que j'ai dit en introduction, qu'en France, en plus des principes qu'on retrouve ailleurs de fiscalité, nous avons une spécificité qui est qu'on veut punir les gens, ça a conduit à avoir des taux d'imposition très élevés. Mais comme ils sont insupportables, ces taux très élevés, ben on crée des tas de niches pour que ça soit supportable. Et il faut que les gens comprennent bien que les niches fiscales sont la contrepartie de ces taux d'imposition punitifs. et que la seule façon d'éliminer les niches, c'est d'abaisser les taux. Mais justement, quand vous supprimez les niches et que vous élargissez les bases, ben vous vous retrouvez dans une situation où, en calibrant bien les taux à la baisse, vous pouvez néanmoins avoir encore plus de recettes fiscales que dans le système actuel. Donc, le système actuel est très pernicieux, des bases extrêmement étroites et des taux très élevés. Alors, quand on était dans un contexte d'économie fermée, c'était pas trop dangereux parce qu'in fine, les gens ne regardaient pas ce qui se passait à l'extérieur et la charge fiscale était supportable. Mais maintenant, vous êtes un investisseur d'Atlanta ou d'Osaka qui veut investir en Europe. Lui, il ne va pas passer son temps et faire une analyse approfondie des niches fiscales françaises. Il va regarder les taux affichés. Et si vous regardez les taux affichés, la France vous envoie un message général en vous disant d'aller vous faire voir ailleurs et pas de venir investir ici. Alors, nous avons malgré tout des investissements en France, mais vous observerez qu'à chaque fois, on y installe des directions ou des ateliers de production, mais on n'y met pas les sièges sociaux qui vont plutôt à Londres. Pourquoi ? Parce que justement, la France a malgré tout des atouts. Nous sommes un très beau pays, nous avons de bonnes infrastructures, nous avons surtout une population extrêmement intelligente et travailleuse. Donc, les entreprises internationales mettent des usines de production ici. Mais toutes les fonctions sophistiquées, ils les mettent à Londres, puisque justement, ça leur permet de jouer de la faible fiscalité anglaise, par exemple. Et donc, on perd tout le bénéfice d'activités à très forte valeur ajoutée qui pourraient être dans le bassin parisien ou dans le Grand Lyonnais ou dans le Grand Marseille.
Et vous rappelez donc que l'union économique favorise la compétitivité fiscale entre les membres. Or, la France, vous le précisez en page 10, subit une crise, parmi les autres crises, hein, parce qu'elle en a d'autres, de compétitivité fiscale. Les autres crises que vous pointez du doigt, la crise des finances publiques, vous l'avez dit tout à l'heure, une crise historique du système productif. Et face à ces crises et à ce devoir de compétitivité, vous fixez trois priorités fondamentales que je rappelle et sur lesquelles vous allez revenir. Un, le rétablissement du primat de la production sur la consommation. Ça me paraît comme une idée extrêmement forte. 2. La réhabilitation de la taxation de la consommation et donc de la TVA avec des compensations adaptées pour les classes populaires. Et 3. La prise en compte de ce que la concurrence fiscale qui est à l'œuvre dans l'Union européenne est une menace directe et massive pour notre système productif et sur notre système social. Donc on ne peut absolument pas déconnecter la réforme de la fiscalité française avec le contexte européen.
Totalement. Et de ce point de vue-là, ce qu'on observe au niveau européen, c'est un mouvement général de hausse de la taxation de la consommation pour abaisser la taxation sur les bénéfices, ce qui pourrait parfaitement être fait en France en élargissant la base de la fiscalité à la fois pour les entreprises comme pour les particuliers. Alors, c'est pour ça que je suis favorable à la suppression de l'essentiel des niches aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, même s'il y a un certain nombre de caractéristiques du système social que je veux maintenir et du système fiscal, puisque c'est extrêmement lié. Par exemple, sur l'impôt sur le revenu, pour moi, il est extrêmement clé de ne pas passer à l'individualisation des déclarations et à la fusion de la CSG et de l'IRPP qui est proposée par un certain nombre de gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fusion CSG-IRPP exige une individualisation des déclarations. Or, ça casserait un élément clé de notre écosystème de fécondité qui nous apporte un taux de fécondité très élevé, qui est quand même un atout pour l'avenir, et qui est donc ce système du quotient conjugal et du quotient familial. Et je pense qu'il ne faut absolument pas remettre en cause le quotient conjugal et le quotient familial. C'est un élément clé de notre politique de la famille, dont je rappelle que l'OCDE, il y a quelques jours, vient de célébrer les mérites en disant que la politique familiale globale de la France était une des meilleures de l'ensemble de l'OCDE au plan mondial. Donc, on ne va pas casser les trucs qui marchent en France. Deuxièmement, on peut parfaitement alourdir les recettes et augmenter les recettes de l'impôt sur le revenu simplement en supprimant les niches sans avoir à fusionner la CSG et l'IRPP. Une autre raison d'ailleurs qui conduit à s'opposer à la fusion CSG-IRPP, c'est que la CSG, c'est un très bon impôt. Il a d'ailleurs été inventé par Michel Rocard. Donc aujourd'hui, ce sont les socialistes qui sont à la pointe de la fusion CSG-IRPP, mais c'est une bêtise. D'ailleurs, il faut noter que les syndicats sont contre cette fusion. Ils ont parfaitement compris que ça risquait de vider la CSG de son extrême efficacité, puisque justement la CSG, elle a justement le mérite d'avoir une très grande base et des taux faibles. On ne va quand même pas casser ce truc qui marche en fiscalité.
Et vous voulez au contraire le renforcer.
Au contraire, il faut s'appuyer sur la fiscalité de la CSG pour réduire le déficit public sans avoir des effets trop nocifs sur l'activité économique. Mais on pourrait citer également la question de l'impôt sur les sociétés. On peut parfaitement imaginer d'avoir un impôt sur les sociétés qui serait ramené à 18% sur les bénéfices mis en réserve et à 26% sur les bénéfices distribués. Avec un élargissement de la base fiscale, il rapporterait beaucoup plus que le taux d'IS à 34% d'aujourd'hui.
Mais alors, vous n'êtes pas tout à fait tout de même sur l'axe de Piketty et Landé, qui, eux, ont comme objectif, vous le rappeliez tout à l'heure, d'abord de pénaliser les riches.
Alors oui, ils sont en opposition à ce que je disais. Moi, je suis dans une analyse stratégique où je prends en compte, notamment, comme vous le rappeliez à l'instant, la compétition fiscale en Europe. Eux, ils écartent complètement les questions de compétition fiscale. Leur objectif, c'est de très violemment augmenter la redistribution fiscale. Sauf qu'au passage, on oublie de dire que les 20% de revenus les plus élevés de France paient déjà 80% de l'impôt sur le revenu. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de redistribution fiscale. Elle est déjà très importante. Il faut certainement améliorer l'efficacité du système, mais on a déjà un problème de compétitivité fiscale et de compétitivité économique. Si on veut finir d'achever la France avec une réforme fiscale qui fait fuir les derniers qui ont envie de travailler dans ce pays, bon ben faisons-le, mais à ce moment-là, ne prétendons pas que c'est pour améliorer la situation.
Oui, alors je rappelle quand même que cet ouvrage de Landé et de Piketty, c'est pour une révolution fiscale. Mais la révolution que vous proposez, vous, c'est pas la même.
D'accord. Voilà.
D'accord. Alors, juste en synthèse, peut-être donc les 2-3 axes clés de vos propositions, avant de conclure.
Alors, si vous voulez, ce que je présente à la fin, c'est un menu.
Il y a, ouais, c'est ça.
Dans un premier temps, il y a ce qu'on doit faire en urgence. Ce qu'on doit faire en urgence, c'est très clairement la réforme de l'impôt sur les sociétés, comme je l'ai indiqué à l'instant, avec 2 tranches. Une tranche à 18% sur les bénéfices mis en réserve, une tranche à 26% sur les bénéfices distribués. Et puis également la suppression de l'impôt sur la fortune qui serait transformée en une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, mais dans le cadre d'un élargissement très fort de la base de l'impôt sur le revenu, de telle sorte qu'on aurait un taux marginal complet incluant à la fois la fiscalité sur le revenu et la fiscalité sur le revenu du patrimoine, qui serait à 30%. Donc, une réforme significative de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Parallèlement, je pense qu'il faut augmenter la CSG pour réduire et éliminer le déficit de la sécurité sociale. Et on devrait poser comme principe constitutionnel qu'on s'interdirait à l'avenir tout déficit des régimes sociaux. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait poser le même principe constitutionnel pour les collectivités locales, de telle sorte qu'on soit obligé à avoir une gestion serrée et des collectivités locales et de la sécurité sociale, qui, je rappelle, sur les 56 points de dépenses publiques aujourd'hui, les collectivités locales et la sécurité sociale représentent 38 points, c'est-à-dire quasiment les 2/3.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas reposer le principe du dogme du paritarisme qui est pour quelque chose dans ces déficits structurels ?
Oui, en même temps, dans les régimes complémentaires de retraite qui sont totalement gérés par le paritarisme, c'est plutôt bien géré.
C'est plutôt bien géré.
Donc
il faut
en fait,
adapter.
Oui,
adapter.
Absolument. Le paritarisme, quand on le responsabilise, il fonctionne plutôt bien.
Comme toujours. Alors, je ne veux pas vous lâcher sans vous avoir posé 2 questions d'actualité. Une plutôt de droite, une plutôt de gauche. La première, c'est que pensez-vous de la prime obligatoire de 1 000 euros que proposent les gens du gouvernement ? Et deux, en sens inverse, que pensez-vous du plafonnement des loyers ? Est-ce que dans les 2 cas, ce n'est pas une atteinte au droit de propriété ?
Évidemment, c'est totalement contre-productif. En réalité, les 2 mesures que vous évoquez visent à quoi ? À améliorer le pouvoir d'achat des Français. Mais il faut quand même redire une fois pour toutes que la seule façon d'améliorer durablement le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter la création de richesses et de valeur ajoutée.
Croissance.
Et donc de faire de la croissance. Et toute mesure qui vise à bloquer le bon fonctionnement du système a des effets nocifs. Si vous bloquez les loyers, qu'est-ce que ça provoque ? Ça freine la construction. Nous avons aujourd'hui un déficit de l'ordre 1 million d'appartements en France. Au contraire, il faudrait faire des mesures très fortes d'encouragement à la construction, qui seraient d'ailleurs bonnes pour la croissance. Donc, si vous voulez, il faut qu'on arrête en France de prendre des mesures sectorielles sans réflexion d'ensemble.
Punitives.
Et punitives à chaque fois. Ça devient étouffant. Et c'est pour ça que, moi, mon projet, il se veut à la fois stratégique, très ouvert, mais de nature à rendre à la France toute sa compétitivité, c'est parfaitement possible. Et ça s'inscrit dans une vision de dynamisme et de grand espoir sur les capacités de la France qui sont considérables.
Voilà, c'était la force de conviction de Christian Saint-Étienne. Je rappelle son ouvrage « L'État et votre argent, les vrais enjeux de la fiscalité » chez Bourin Éditeur. Et je vous lis un extrait de sa conclusion. Le modèle économique et fiscal que j'appelle de mes voeux peut remettre notre économie sur un sentier de croissance de 3% l'an. La France redeviendrait un pays économiquement et fiscalement attractif. On l'espère.
Merci.
Merci à vous, Christian.
Merci.